Bienvenue dans Aubercail, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Charton, l'hôte du podcast 6 heures du bat. Bonjour Nicolas.
Salut Caroline.
Alors Nicolas, tu es un passionné du bâtiment, même si ce n'était pas ton chemin professionnel au départ. Avec ton podcast, tu t'attelles à redorer le blason de ce secteur en expliquant l'écosystème du BTP, les méthodes et les partages d'expériences provenant du terrain. Parti d'un parcours en start-up, tu t'es laissé séduire par le chantier et tu ne veux plus en décrocher. J'ai l'impression que c'est devenu une vraie passion. Dans cet épisode spécial, on va explorer les pépites que tu as dénichées au fil de tes discussions dans 6 heures du bat, analyser les leçons que t'en as tirées et découvrir aussi les entreprises qui t'ont marqué. Du coup, chers auditeurs, préparez-vous à plonger dans l'univers du BTP, c'est parti. On est parti pour cette discussion, Nicolas.
Trop cool.
T'es prêt?
Yes.
Allez, go. J'ai déjà une première question un peu spécifique. C'est quoi ta plus belle découverte à travers tes épisodes et pourquoi? Je te demande déjà de choisir.
Ah oui, direct les choix. Comme tu dis, j'essaie d'explorer un peu l'ensemble de l'écosystème du BTP. Donc je vais te faire une découverte un peu globale. Donc c'est-à-dire que moi c'est vraiment j'ai découvert un monde incroyable en fait, un monde riche, un monde vraiment plein de diversité, que ça soit dans les métiers, que ça soit dans les entreprises, dans les parcours. Et ça c'est vraiment ma plus belle découverte parce qu'en fait c'est une image du BTP qu'on m'avait jamais vendue, qu'on m'avait jamais présentée. Et découvrir ça un peu sur le tard, c'est ça la plus belle découverte, c'est se dire que y a un monde comme ça qui existe et qui est incroyable et que du coup j'essaye d'explorer. Et je dirais que ma plus belle découverte, c'est vraiment le parcours des gens et leur fierté en fait. La passion qu'ils ont dans leur métier, c'est ça le plus beau en fait. Les gens qui sont passionnés de leur métier, c'est vraiment ce que j'adore découvrir au fil des épisodes, quoi.
Il y a du concret, il y a du vécu, on sent que c'est parler vrai aussi peut-être.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout en fait dépasser le cadre du métier. En fait, on met souvent les gens dans des box type lui il est artisan, il est ouvrier, il est maçon ou autre. Mais en fait, quand tu leur demandes, tu poses des questions, tu te renseignes et autres, mais c'est des gens qui font tellement d'autres choses que seulement leur métier. Et c'est ça qui est incroyable en fait.
Est-ce que tu as un exemple concret en tête par rapport à ça?
Oui, je vais te dire instinctivement, moi le plus bel exemple que j'ai eu, c'est Martin Duplantier qui est architecte urbaniste. Mm-hmm. Et en fait, moi je l'ai découvert à l'époque où j'étais justement dans ma vie de start-upper, où je visais les architectes. Et en fait, en découvrant ce profil, je suis tombé sur quelqu'un qui est ultra engagé sur la cause ukrainienne. Par exemple, il était donc à la fois prof dans des universités là-bas. Et au moment de la guerre, en fait, il s'est pas posé la question et il s'est dit, écoute, je vais là-bas tout le plus souvent possible et je vais œuvrer à aider les gens à déjà structurer les bâtiments, faire en sorte que ça tienne et faire en sorte que ça soit bien reconstruit parce qu'il va y avoir énormément de choses à reconstruire. Et ça, je trouve ça incroyable de prendre autant de risques, de ne pas se poser la question, d'aller aider les gens. Ça, il aurait pu juste se dire, moi je suis en France, j'ai mon cabinet à Paris, à Bordeaux, même si j'ai été prof et que j'ai des gens que je connais en Ukraine, en fait, à quel niveau je peux faire quelque chose, quoi. Et en fait, il s'est pas posé la question, il a été s'engager là-bas, et puis c'était un partage vraiment incroyable, il te racontait des choses que, en fait, normalement, tu vois ça que soit dans les médias, soit si tu connais quelqu'un qui est sur le front, quoi. Donc c'était vraiment, vraiment un choc et vraiment une claque, quoi. C'est là que j'ai vraiment vu que derrière chaque métier, derrière chaque parcours, il y avait des engagements exceptionnels, quoi.
Tu te prends une belle claque d'humilité avec ce genre de discours.
Ouais, c'est clair. Exactement.
Ok, trop bien. Merci déjà pour ça. Est-ce que, on va parler un peu de tes apprentissages sur le secteur du bâtiment. T'as fait pas mal d'épisodes, il y a pas mal de sujets. Je sais pas s'il y en a un qui te vient en premier sur lequel t'as envie de parler, sinon j'en ai deux, trois à t'évoquer.
Moi, mon plus bel apprentissage, l'apprentissage que je ressors de tous ces épisodes, parce que comme tu dis, il y en a eu pas mal en vrai. On commence à approcher la trentaine d'échanges, quoi. Donc c'est déjà un bon panel. Et c'est vraiment, en fait, c'est sortir de cette idée reçue. On dit souvent le BTP innove pas, le BTP bouge pas, c'est un vieux secteur, c'est quelque chose de très ancré dans l'ancien et autres. Et en fait, il y a un nombre d'innovations, un nombre de développements, un nombre de nouvelles technologies, nouvelles approches, nouvelles méthodes qui viennent du BTP, qui est incroyable. Et je me dis, bah en fait, c'est ça que je retire le plus, c'est que, bah, comme tu dis, tu sors des idées reçues, tu sors du blason du BTP un peu sale, un peu poussiéreux, et au final, tu vois que c'est... Ils sont en avance sur pas mal de sujets, à la fois sur les nouveaux matériaux, mais en fait, ils sont en avance, mais c'est aussi parce qu'on leur impose d'avancer. Ils n'ont pas le choix, en fait. Il y a des lois, il y a des choses qui sont mises en place, et c'est les premiers à devoir bouger, parce que bah, c'est eux qui sont le plus impactés, quoi. Donc tu vas avoir des innovations sur la production de matériaux, sur la composition des matériaux, sur les méthodes de construction et tout, et c'est là qu'ils sont vraiment... Enfin, je trouve que de dire qu'ils étaient un peu en retard sur certains sujets, en fait, c'est eux qui sont en avance, parce que c'est eux qui sont dans le concret, et ils utilisent vraiment tous ces changements, toutes ces innovations, quoi.
Ouais. Typiquement, j'écoutais un de tes derniers, si je me trompe pas, sur le fait d'avoir une double journée, et qu'il faut pouvoir gérer ces doubles journées, et qu'il faut pouvoir céder. C'est typiquement là-dedans, ils sont en première ligne. Principalement, enfin, quand on parle vraiment des artisans dans le BTP, etc., ils sont en première ligne, les fabricants aussi, de toute façon aussi. Ils doivent s'adapter. Et du coup, il y a plein de petits outils. Est-ce qu'on peut parler peut-être un peu de ta vision Alors, il y a deux choses, le digital et la low-tech. Je sais que tu as eu les deux aspects. Qu'est-ce que t'en as perçu à travers tes interviews, à travers les personnes que tu as rencontrées, comment ça s'adapte au niveau du digital, parce que faut pas se leurrer, le secteur du bâtiment a eu quand même un petit temps de retard sur le digital par rapport à d'autres secteurs plus mis en avant.
Bien sûr.
Comment tu l'as perçu et quelles ont été un peu tes grosses découvertes là-dessus, quoi?
Mais en fait, il y a eu un gros changement, je pense, sur le secteur. Enfin, c'est ce que je ressens et ce que j'ai pu creuser un peu avec les gens que j'ai reçus. C'est qu'à une époque, le digital pour le BTP était poussé par des gens qui n'étaient pas du secteur. C'est-à-dire qu'il y a énormément de produits logiciels, développement et autres qui ont été faits par des éditeurs de logiciels qui n'étaient pas du secteur. Mmh. Et la plupart des éléments digitaux, des éléments qui ont transformé le BTP, viennent de personnes qui étaient du secteur, qui se sont dit bah, « j'en peux plus de travailler de cette manière-là, c'est plus possible, il faut qu'on avance, il faut qu'on change ». Et c'est ces gens-là qui sont sortis de leur activité de chantier pour justement venir bousculer les choses à la fois sur le digital, à la fois sur des innovations, des optimisations. Et c'est eux en fait qui font bouger les choses de l'intérieur, et ça passe par des petits acteurs comme des gros acteurs, mais je trouve que le virage vers le digital il s'effectue plutôt dans les bonnes conditions, même si y a des fois où ça va être complexe, on va avoir comme dans tout secteur les freins au changement, on avait quand même un secteur qui était un peu vieillissant sur la population qui était sur le secteur, parce qu'on a quand même pendant un moment... pas pousser les jeunes à intégrer le secteur du bâtiment, donc il y a une grosse transformation qui s'effectue là-dessus, mais les nouvelles générations du bâtiment, les nouvelles générations d'apprentis, les nouvelles générations de personnes qui œuvrent sur ce secteur sont vraiment sensibilisées à cette chose, à cet aspect qui est le digital, et comme tu dis, en fait, ils ont vu souvent dans les familles, parce que c'est souvent des business familiaux, le bâtiment, ils ont vu des familles faire des doubles journées et se dire, en fait, moi, là, en 2023, en fait, c'est plus possible ça. C'est plus possible de passer toute sa journée sur le chantier et de passer encore 4 heures en rentrant à juste remplir des rapports, à envoyer des mails et autres. Et même en termes d'énergie mentale, physique, c'est pas possible en fait. C'est vraiment comme ça que je le perçois. C'est que, en fait, le virage vers le digital, il est pas du tout. Il a peut-être été subi un moment sur le secteur, je pense. Et on a voulu l'imposer de manière un peu délicate et pas forcément dans le bon sens, un peu de manière maladroite en disant écoutez, on a des super trucs qui vont vous améliorer votre quotidien, vous allez gagner tant de temps par semaine et autres. Mais en fait, tant que ça venait pas du secteur, je pense que la preuve sociale était vraiment nécessaire en fait là-dessus, sur ce changement-là.
Puis il n'y avait peut-être pas aussi ce côté accompagnement où, comme tu disais, c'est des gens de métier qui ont peut-être créé pour des gens du métier. Et du coup, exactement, là, il y avait une vraie adaptation par rapport au quotidien. que, comme tu dis, sur des personnes qui avaient peut-être une offre beaucoup plus large qui s'adaptait à tout secteur, ça correspondait pas du tout, quoi.
Ouais, et puis je te dis ça en toute humilité parce que quand j'étais dans la start-up du coup pour le bâtiment, mm-hmm. en fait nous on a eu ce blocage là, si tu veux, c'était que même si le logiciel avait été créé par un maître d'œuvre, en fait moi quand j'allais rencontrer les gens du bâtiment, ils avaient vite compris que j'étais pas du secteur au début. Donc forcément, tu t'arrives après 30 éditeurs de logiciels et autres, 30 nouvelles solutions, bah ça passe un peu moins. Alors que quand t'arrivais avec un discours où tu venais avec quelqu'un qui était du métier, qui utilisait l'outil, bah ça passait tout de suite mieux. Parce que du coup, la confiance était là. Et je pense que ça marche surtout comme ça, en fait. Le changement dans le bâtiment, c'est vraiment quelque chose qui est interne, qui est poussé par le secteur. Alors, imposé par pas mal de décisions externes, mais c'est vraiment le noyau dur, en fait, qui fait bouger les choses dans ce secteur-là.
Ok. Ah oui, non, c'est sûr. Et du coup, à contrario, l'arrivée un peu, enfin pas l'arrivée, mais l'installation plus du digital et les codes qui sont en train de bouger. On parle de plus en plus, moi j'en ai parlé aussi dans le podcast, mais j'ai vu que tu en avais aussi parlé, de ce qu'on appelle la low-tech. On revient à des solutions plus basiques, sans technologie. En gros, low-tech, c'est sans technologie. Ouais. Phare. Comment tu perçois ça aussi dans le bâtiment, dans le BTP, qu'est-ce que tu as pu percevoir?
Bah ça c'est pareil, c'est un peu des virages qui sont pris et qui sont entrepris par des personnes qui se sont dit bah en fait on n'est pas obligé d'investir des millions dans de la technologie, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont déjà faites et en fait il faut juste repartir de la base et puis ajuster, faire des choses dans la composition des matériaux, faire des choses dans le traitement des matériaux aussi, la production, parce qu'il y a énormément d'améliorations qui sont faites au niveau de la production, surtout sur l'impact carbone, parce que c'était un secteur qui avait un gros gros impact carbone, qui en a toujours un, mais en fait, bah, il en aura toujours un, parce que c'est impossible de réduire à néant son impact carbone. En utilisant des matériaux, tu en auras forcément. Mais par contre, quand tu sais qu'au moins 40% de la production carbone et au niveau justement de cette production du matériau et au niveau de la composition, et ben si tu peux réduire à ce moment-là sans technologie ou sans besoin digitaux, et ben t'arrives déjà à faire bouger les choses. Et je pense que c'est vraiment là-dessus que le virage doit continuer à s'entreprendre. C'est que t'es pas obligé de révolutionner ton secteur. Tu peux juste voir ce qui existe et te dire bah là tu vois par exemple au lieu d'utiliser deux fois plus de béton, on va peut-être en utiliser deux fois moins, mais par contre, on va en utiliser un biosourcé, on va utiliser quelque chose qui sera plus durable. Et comme ça, du coup, sur le long terme, bah, c'est toi qui prends les devants sur ces changements que tu vas avoir à faire dans le futur, parce qu'il y en aura aussi à faire. Mmh. Et de pas devoir repartir de zéro, je pense que c'est ça la base aussi de l'évolution et de ce virage vers la low-tech. Notamment, tu vois, les peintures... toi aussi t'as reçu Maxime d'Enercool sur les peintures rafraîchissantes, bah ça en fait c'est des choses qui existent, c'est juste des choses qui sont pas forcément
mises en place
connues et pas développées ici, et au final bah ça a des vrais impacts et c'est pas la nouvelle technologie qui va révolutionner tout le monde entier, quoi. C'est vraiment sur un impact précis et c'est efficace, quoi.
Il y a une réelle prise de conscience là-dessus, de se dire qu'on peut réutiliser des choses qui existaient d'antan et qu'on a un peu oublié ou qu'on n'a pas été voir encore chez le voisin. Typiquement, la peinture réflective, ouais. C'est utilisé en Grèce, si je ne me trompe pas, depuis des années et des années.
Ben ouais, et puis en plus, le pire, c'est que, tu vois, sur ce sujet-là, c'est que tu voyais énormément de photos de bâtiments tout en blanc. Et en fait, jamais personne s'est dit, bah, en fait, s'il faut la peinture utilisée ou le matériau
pourquoi
et autres, pourquoi? Pourquoi ils faisaient ça, quels étaient les impacts et autres. Et même sur d'autres sujets, tu vois, ça c'est vraiment sur la partie peinture consommable, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui bougent sur le BTP, sur la partie réemploi. Il y a énormément de plateformes de réemploi sur les matériaux, que ça soit sur le tertiaire, tu vois, quand tu fais de l'aménagement et que tu changes tous tes bureaux, bah en fait, tu vas pas jeter tous les 3 ans tes bureaux parce que tu changes de siège, en fait. Donc il y a des ateliers qui existent pour remettre à un peu... comme tu peux avoir sur les technologies, tu vois, tu les as en réemploi, je sais plus c'est quoi le terme, mais en gros, tu les as de manière, ils sont remis à neuf, quoi. C'est,
ouais, c'est l'upcycling, c'est de
ouais,
dire
exactement.
tu remets ouais, comme tu dis, au goût du jour, ou le matériau, le logiciel, je sais pas du coup, mais aussi,
Ouais,
tu
c'est ça. Bah, en fait, c'est comme si tu reprenais, tu tiens compte de l'usure du matériel, tu vois, de ton siège, de ta table, de ton meuble, mais tu fais en sorte qu'il soit du coup comme remis à neuf, mais avec d'autres aspects, quoi. Tu prends juste l'aspect durée et tu fais en sorte que ça soit plus long, quoi. Tu vas pas t'amuser à... Enfin, ça a plus de sens en 2023 de faire tes bureaux, de prendre 50 sièges. Et dans 3 ans, de te dire, bah, en fait, la couleur me plaît plus, je reprends 50 sièges et je réutilise pas, quoi. Ça a plus de
Ouais.
sens.
Non, non, complètement. Complètement. Il y a une prise de conscience là-dessus, je pense, qui est de plus en plus valable et encore plus sur le secteur, quoi. Et puis même, il y a une question aussi économique sur le point de vue réemploi. Déjà, bon, de matières premières, mais économique aussi, puisque en général, il y a quand même une différence de prix quand on réemploie des matériaux, on réemploie du consommable, etc., quoi.
Ouais, exactement. Exactement. Et j'ai retrouvé le terme, c'est reconditionner, en fait. C'est ça, c'est le reconditionnement des matériaux à la fois sur le début et sur la fin de vie, quoi.
Mais c'est hyper pertinent. J'aimerais qu'on aille un peu aussi sur le pan. Tu l'as un peu exposé tout à l'heure sur le fait d'attirer aussi qu'à un moment donné, le secteur était vieillissant et que c'était difficile d'attirer une nouvelle génération sur le secteur. Je sais que tu as eu aussi des épisodes sur la formation. Est-ce que
Ouais.
tu peux nous parler un petit peu de tes découvertes, pardon, liées à ça?
Bah ouais, écoute, moi en fait, comme tu as dit, mon parcours, déjà pour arriver jusqu'au bâtiment, il a été du coup un peu différent du parcours classique si tu le démarres au collège, parce que du coup, en fait, moi dans l'aspect formation, ce que j'ai vu, c'est que bah, moi je suis pas. Enfin, je suis pas d'une ancienne génération, hein. J'ai 26 ans. Il y a 15 ans, j'étais encore en train de me poser des questions sur mon orientation pour la suite. Et en fait, dès que tu avais un bon parcours, dès que tu étais plutôt performant à l'école, mais jamais on te présentait le bâtiment. Alors qu'en fait, bah, c'est pas seulement destiné à ceux qui sont en échec. C'était pas un secteur d'échec. C'est pas une voie de garage. C'est pas seulement pour. Enfin, tu vois, c'est comme si je te disais, bah écoute, je vais te mettre dans un bureau juste parce que tu sais compter jusqu'à 12, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est pas parce que tu es bon dans un sujet que tu vas être très bon dans ton métier qui est dans le tertiaire ou quoi. Et là, dans la formation, il y a des gros, gros, gros acteurs là qui bougent, qui font en sorte que justement cette idée reçue et puis ce côté bâtiment pour l'échec et pour la voie de garage se changent. Alors, beaucoup de programmes sur quand tu fais tu reprogrammes un peu ta carrière, tu changes de carrière, t'as fait 10 ans dans le tertiaire et tu te dis, mais en fait, en effet, c'est pas ça que je veux faire. Et tu te retrouves dans des programmes comme l'école Gustave ou comme les formations des compagnons, où tu te retrouves dans ce genre d'organismes qui vont te pousser sur des trucs super courts et qui vont te donner les bases des métiers. En fait, c'est hyper accessible maintenant. Le bâtiment est hyper accessible. Sauf que du coup, il y a un gros sujet sur montrer que c'est accessible. Montrer ce qui existe en termes de formation. Montrer la facilité aussi d'accès. Parce que c'est pas que de l'atelier, le bâtiment. Ça peut être sur plein d'autres sujets. Donc tu peux faire des études sur de la conduite de travaux, tu peux faire des études sur pas mal d'autres choses. Il y a énormément de métiers et en fait, c'est ça le cœur du sujet pour la formation, c'est de montrer toutes les possibilités qui existent et surtout montrer que c'est pour tout le monde. Montrer que c'est pour ceux à la fois qui sont bons à l'école, ceux qui sont pas bons à l'école, ceux qui ont envie de faire autre chose. C'est un secteur qui est ultra riche. Tu peux trouver à faire sur tout le secteur, que ça soit du manuel, que ça soit de la réflexion, de l'ingénierie, que ça soit de l'étude, du diagnostic. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, t'as pas
Et ça
besoin
peut
de,
se
t'as
mixer.
besoin d'un parcours. Bah ouais, c'est clair.
C'est pas que
Et
du
donc,
matériel, c'est pas que.
dans les acteurs, bah écoute, ouais, je te dis. Des nouveaux acteurs, il y a un peu l'école Gustave qui est portée par Marie Blaise là sur Paris, Marseille. Maintenant, ils ont ouvert un autre campus. Tu vas avoir d'autres bootcamps un peu comme ça. J'ai reçu aussi Charlotte Leroux qui fait sur la partie menuiserie. En fait, t'as beaucoup de lieux qui existent maintenant pour se former au bâtiment.
Il y a
Ça
la Solib
sort un peu
aussi,
du.
je crois.
Ouais, exactement.
Ouais.
Mais ouais, c'est ça. Et puis la formation, en fait, c'est un gros enjeu maintenant. c'est comme, enfin, c'est lié aussi aux enjeux qu'on a évoqués auparavant, c'est le recrutement. Tu vois, t'as du mal à recruter du monde dans le bâtiment, mais pourquoi? Bah parce que déjà, en amont, il faut qu'il y ait plus de monde. Et comment tu fais pour qu'il y ait plus de monde? Bah, tu fais en sorte que le bâtiment soit plus dynamique. Ça, c'est des choses que font, par exemple, la FFB sur des initiatives comme les coulisses du bâtiment, où ils font découvrir des chantiers à des jeunes du collège au lycée. Ils ouvrent les CFA, ils ouvrent les ateliers. Et en fait, tant que tu montres pas aux gens, bah, ils vont pas aller, ils vont pas pouvoir le voir par eux-mêmes. Et puis pareil, il faut du témoignage, il faut des gens qui te montrent ce qu'ils font dans la vie, leur métier. Et ça, bah, là, c'est un peu le bon côté des réseaux sociaux, c'est qu'il y a aussi pas mal de monde qui le font sur les réseaux sociaux.
De plus en plus, ouais.
Et ça, c'est un des bons côtés des réseaux sociaux, malgré pas mal d'autres côtés qui sont plutôt négatifs sur le long terme.
C'est vraiment cet aspect de le rendre attractif. Il y a aussi ce côté, aussi parce que du coup, c'est accès pour tout le monde, et aussi à la féminisation dans le bâtiment. C'est aussi un sujet que c'est pas réservé aussi qu'aux bonhommes et qu'aux hommes, c'est aussi pour les femmes. Et ça, c'est aussi un vrai sujet aussi de dire, vous avez autant votre place, peu importe votre sexe, entre guillemets, quoi.
Bah ouais, bien sûr. Bah ça, là-dessus, sur la féminisation, je trouve qu'il y a un bel élan qui est en cours sur le secteur. Et en fait, il y a un truc qui est hyper important à dire, c'est que, en effet, c'est ouvrir les métiers du bâtiment aux femmes, mais c'est surtout repenser à la fois les capacités d'accueil sur les centres de formation, dans les entreprises aussi, pour que ça puisse accueillir un public féminin, parce que ça passe aussi par là. C'est pas seulement juste dire, bah écoute, tu peux devenir peintre, tu peux devenir plombière, tu peux devenir maçon. Enfin, il faut aussi donner les conditions pour que ça soit une réussite. J'ai échangé aussi avec des femmes qui voulaient rentrer dans le BTP, et quand ils me racontent que quand ils entrent en entretien, qu'ils vont dans l'entreprise, qu'ils voient qu'il n'y a pas de toilettes femmes, par exemple. En fait, à quel moment tu te dis, je vais aller bosser dans cette entreprise, il n'y a même pas des toilettes qui me sont réservées. Enfin, c'est fou. C'est juste fou. Mais après, pour moi, en fait, si tu veux, il y a un sujet. C'est que pour que ça avance vraiment beaucoup plus, il faut que ça soit une initiative qui soit commune, en fait. Il ne faut pas que ça soit juste un combat, les femmes du BTP qui veulent rentrer dans le BTP, VS les hommes qui sont déjà dans le BTP. Non. En fait, il y a énormément d'hommes qui font bouger les choses aussi dans la féminisation. Il faut que ça soit un mouvement qui doit être porté par tous, de la formation, des entreprises, même, tu vois, nous, sur des podcasts, sur des médias, de montrer que ça existe, de montrer qu'il y a des choses qui sont faites, que ça avance, que c'est pas seulement... pas seulement cloisonné, même si les chiffres ils restent encore faibles, et que la parité et que l'équité en termes de présence femmes-hommes dans le bâtiment elle va être longue à atteindre. C'est pas forcément un but en soi, l'équité, la parité, c'est juste de faire en sorte que ça soit plus inclusif, plus accessible à tout le monde, quoi, c'est tout.
Je dirais pas mieux. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a un autre sujet, un autre apprentissage qu'on n'a pas parlé qui te vient et sur lequel t'as envie de rajouter quelque chose?
Ben, je t'avoue que là, je pense qu'on a fait un gros tour sur les apprentissages, enfin mes apprentissages du secteur, mais en fait, je vais pas te mentir, moi j'apprends tous les jours sur ce secteur, donc si tu veux, on enregistre demain, j'aurai appris des nouvelles choses. Franchement, il n'y a pas un jour, peut-être pas une semaine, où j'apprends pas quelque chose de nouveau sur ce secteur, un métier, une entreprise, des méthodes, enfin, c'est incroyable, tu vois. Moi, il y a encore un an, enfin... Et encore aujourd'hui, hein, je pense que tu me demandes de faire des activités de bâtiment, bon, je serais peut-être pas forcément capable, mais au moins je saurais à qui m'adresser, tu vois. Et ça c'est fou, parce que c'est tellement riche, tellement de monde, tellement d'opportunités, que ça soit dans les méthodes de construction. Moi, je me suis pris de passion pour notamment la partie archi d'intérieur, la partie méthode de construction et architecture complexe. Enfin, c'est des choses qui, si t'en parles à mes proches ou à mes amis... encore aujourd'hui, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin,
qu'est-ce qu'il devient?
D'où il sort? C'est pas la personne que... Enfin, c'est pas les sujets sur lesquels j'étais avant, quoi. Parce que c'est des sujets qu'on m'avait pas forcément présentés de la bonne manière, et du coup, j'avais du mal à m'y intéresser. Mais maintenant, tu vois, je vais aller creuser sur des nouveaux matériaux, des trucs... je vais pouvoir te parler de béton décarboné. Enfin, rien que de le dire, je me dis, mais c'est fou. C'est fou, ouais. D'être capable de trouver autant de nouvelles choses à apprendre tous les jours, quoi.
Je comprends ce sentiment. Il est partagé.
Bah, écoute.
Trop bien. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et puis, au pire, il faudrait qu'on fasse une série long terme. Hein. C'est avec les nos apprentissages.
Bah, c'est clair. Les petits apprentissages de 3 minutes par semaine, qu'est-ce que tu as appris cette semaine, quoi. C'est mais ça, dingue. tu pourrais même en faire avec des gens du bâtiment, parce que même eux, ils apprennent tout le temps, quoi. Ouais. C'est fou.
C'est un secteur qui est très, très porteur là-dessus, en tout cas. Si tu es curieux et que tu as envie d'apprendre vraiment tous les jours, tu peux ressortir tous les jours avec quelque chose dans ta tête ou dans les mains, quoi.
Ouais, c'est clair.
Si tu devais vraiment citer 3 boîtes qui t'ont le plus inspiré sur le secteur, ce seraient lesquelles ?
Bah écoute, je peux pas répondre à cette question sans citer la boîte qui m'a fait vraiment aimer le secteur.
Okay.
En fait, c'est un cabinet d'architectes d'intérieur à Paris, ça s'appelle We Are Merci. C'est Meryl et Simon, donc c'est un couple qui est architecte d'intérieur sur Paris, et c'est vraiment eux qui m'ont donné le virus. Hein. Clairement, je pense que... j'avais eu un rendez-vous chez eux, dans leur cabinet à Paris, et c'était un rendez-vous pour la start-up, et au final, on a discuté pendant 1h30 d'énormément de choses, et je me suis dit, mais waouh, enfin, gros, la première claque, elle est venue de là, donc je suis obligé de les citer, ils font un boulot de fou, ils sont passionnés par le beau, par le fait de rendre les espaces vraiment atypiques, singuliers, avoir un vrai impact sur le choix des matériaux, sur les nuances, sur plein de choses. Donc Meryl et Simon, voilà, je suis obligé de vous citer dans ces boîtes qui m'ont le plus inspiré sur le secteur. Après, ça va être un global, donc je vais te citer 2 boîtes, mais c'est plus sur les valeurs qu'elles transmettent. C'est des boîtes plutôt à un peu plus grosses échelles. Tu vois, c'est le groupe Acorus et le groupe Doumer. C'est 2 boîtes qui sont vraiment donc à la fois sur les travaux, donc énormément de corps d'état dispensés. Donc ça prend bien la globalité du bâtiment. Mais c'est surtout 2 entreprises dont je partage les valeurs. En fait, c'est valorisation des métiers, responsabilisation, valorisation des paroles du collaborateur. Les décisions, elles sont prises pas forcément par la... Enfin, la décision finale est prise par la tête de l'entreprise, mais elles sont réfléchies avec le groupe. Et ça, vraiment, c'est... En fait, c'est ça c'est mon bâtiment, en fait. C'est le bâtiment que j'ai découvert et c'est cette force du collectif. C'est le fait de toujours écouter les autres, de toujours apprendre des autres, de toujours apprendre de n'importe qui, quel que soit son niveau dans l'entreprise, dans le sens où il est forcément protagoniste dans les décisions. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis pour finir, tu vois, une boîte historique du secteur, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'échanger avec elle, c'est donc la boîte Semain. C'est la boîte familiale, du coup. Enfin, c'est une histoire familiale incroyable et c'est aussi... un bon représentant du bâtiment parce que c'est, comme je te disais, il y a énormément de boîtes du bâtiment qui sont des aventures familiales. Et donc moi, merci. Ce que je vois avec ce que fait Caroline, du coup Caroline Semain, qui a créé le trophée les talentueuses pour les femmes du BTP, faire bouger les choses, donner de la force aussi à pas mal d'initiatives. Enfin, franchement, je trouve ça, c'est exceptionnel et c'est des gens super inspirants. Et pour avoir échangé avec du coup des personnes qui avaient eu ce trophée, du coup des talentueuses, rien que pour la confiance et la validation que ça a pu donner à ces femmes incroyables du BTP, bah franchement, je suis obligé de la citer dans les belles découvertes et dans les boîtes qui m'inspirent, quoi.
Trop bien, trop bien, trop bien. Je suis aussi pas mal les aventures du groupe Semain avec Caroline qui essaie de bouger des choses. C'est très chouette aussi. Merci pour les découvertes. Je connaissais pas la première et la deuxième, enfin les 2 groupes. Donc j'irai voir ça un petit peu plus.
Mais tu peux en plus, c'est vraiment des. En fait, c'est 2 boîtes qui sont sur des aspects un peu différents. Mais le groupe Doumer, il y a une vraie volonté en fait d'être sur le compagnon. Tu vois, sur l'art du compagnon, le métier. Être fier du métier qu'on fait, être fier d'appartenir au métier de compagnon, être fier d'appartenir au bâtiment. Et ça, tu vois, c'est un truc que si je dois retenir quelque chose, c'est d'être fier de ce qu'on fait tous les jours. Et dans le bâtiment, il y a de quoi être fier. Donc voilà pourquoi je l'ai cité.
On met des taux au-dessus des têtes, hein, quand même. Enfin, il met
exactement.
Des taux au-dessus des têtes.
Exactement.
Ok, très bien. Et du coup, petite question curiosité pour tes prochains épisodes, pour la suite de ton podcast. Qu'est-ce que tu aimerais découvrir ou apprendre de nouveau ?
c'est des gros sujets, tu vois, c'est des sujets, tu vois, j'y réfléchis très très souvent sur qu'est-ce que je voudrais en faire, qu'est-ce que je voudrais montrer, et je pense que, comme je te dis, on peut découvrir pas mal de choses, et moi, ce qui me chauffe pas mal en ce moment, c'est d'aller découvrir sur le terrain les gens directement, parce que tu vois, tu vas enregistrer les podcasts, tu vas pas forcément être dans l'action avec eux sur leur métier et autres. Ils vont te parler de leur métier, mais le vivre, c'est encore plus incroyable. Donc moi, j'ai vraiment envie d'essayer de Bah de déployer ça, d'aller sur chantier, d'aller enregistrer même sur chantier, découvrir des nouveaux métiers. Là, je suis en train de voir pour valoriser des métiers un peu moins connus. Tu vois, j'ai découvert le métier de cordiste en bâtiment. J'ai découvert le métier de métallier. Enfin, il y a des trucs de fou que j'aimerais bien pouvoir mettre encore plus en avant. Donc, c'est simple. J'ai juste l'impression, là, pour la suite, de vouloir rattraper toutes les années. On m'a vendu le bâtiment comme quelque chose d'assez rugueux, dur, poussiéreux et autres. Et de faire en sorte que, bah, on enlève la poussière, on enlève la voie de garage et puis on montre que
on
c'est une voie
un
exceptionnelle,
petit peu
quoi. Exactement.
Trop bien, trop bien. Bah, j'ai hâte de suivre ça. Merci
écoute,
beaucoup.
Soyez au rendez-vous, du coup, très matinal, hein, toujours à 6h du mat tous les lundis.
Trop bien, trop bien, trop bien. Je mettrai de toute façon le lien en description aussi. Petite question tac au tac, petite question actionnable qui sont plus personnelles. Est-ce que t'es prêt?
Écoute, une grande respiration et je suis à toi.
Ok, et ben bah alors, dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi pour toi ton bercail idéal?
Ah, écoute, je vais pas te mentir, j'ai un peu réfléchi à la question parce qu'au bercail, forcément, on réfléchit à son bercail. Et moi, si tu veux, mon bercail idéal, vraiment, ça serait un mix entre... Je sais pas si tu connais cette chaîne YouTube incroyable qui s'appelle The Local Project, où t'as toujours des choses, des prouesses architecturales et puis des lieux incroyables. Donc moi, c'est un mix entre The Local Project et un peu la maison dans Charlie et la chocolaterie où il y a toute sa famille. C'est vraiment un mix entre ces deux-là parce que moi, j'aime bien le côté bah du coup performance architecturale pardon, à couper le souffle, un cadre naturel. Et moi je suis assez urbain si tu veux et pourtant l'animation urbaine, la fougue des capitales, la vitesse des villes, bah en fait c'est pas mon idéal de bercail. J'aime bien y être mais j'aimerais bien avoir mon bercail un peu isolé, un lieu de fou avec bah tous les proches, tu vois, tous les gens avec qui j'ai envie de passer mes journées au bercail quoi.
OK. Ok, ok, j'aime bien l'ambiance, Et du coup,
trop
si
cool.
T'avais un mot pour définir ton bercail, ce serait quoi? Un seul.
Mais un seul?
Un seul. Okay.
Bah, je dirais équilibré.
Ok.
C'est-à-dire, tu vois, ni trop exubérant, ni trop inclusif, ni trop... Tu vois, c'est vraiment, comme je te dis, ce mix entre un truc hyper fou niveau architecture, mais en même temps, un truc un peu intimiste, tout est avec les tiens, il n'y a pas beaucoup de mouvement, t'es en pleine forêt ou quoi, enfin, vraiment un truc équilibré, ni trop de bruit, ni trop silencieux, ni trop chaud, ni trop froid, enfin, un truc comme ça, quoi. Vraiment un bercail équilibré.
Ok, trop bien. Ben, merci beaucoup. Merci,
merci à toi.
Merci d'avoir répondu à l'appel pour cet épisode et d'avoir pu faire cet échange, c'était vraiment trop cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu l'as déjà dit, bon, sur 6h du bat, très tôt
matin,
le matinal. Est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs pour suivre ton travail?
Ouais, bien sûr. Bah, écoute, moi, je sévis principalement sur LinkedIn, du coup, donc Nicolas Chartan sur LinkedIn. Après, comme tu dis, bah, 6h du bat, c'est sur toutes les plateformes, que ça soit les plateformes de streaming. On va passer, je pense, sur YouTube aussi pour aussi faire de la réécoute. Mais tu peux me retrouver sur toutes les plateformes. Et là, je démarre pas mal Instagram. Là, on va faire pas mal de vidéos, essayer de montrer encore plus de choses. Donc Instagram, 6h du bat, pareil aussi sur les réseaux.
Parfait. Et ben, je mettrai tout ça en description. J'ai plus qu'à te remercier encore une fois. Merci pour ton passage.
Ben, merci à toi pour l'invitation. C'était top de pouvoir aussi expérimenter la chose derrière le micro, du coup.
C'est toujours une expérience. Et bah, j'ai plus qu'à souhaiter à tous nos auditeurs, pardon, une très belle journée et à bientôt dans vos bercails. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier appel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez, viens, construisons au bercail ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.